got the money, I've got the time. You want your freedom, make your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes.
Tout ça est fait avec un sens de la durée absolument parfait.
Rachel Laurent.
Comme ça, c'est absolument musical, c'est comme une partition de piano. Hein, c'est assez grand, il y a une ironie fantastique comme ça, à faire de la musique avec du Coca-Cola. Il y a une qualité en plus d'irisation, de chatoiement comme ça, de différence de densité. On peut détailler chaque bouteille, mais on peut lire l'ensemble d'une telle compacité que ça peut se lire aussi comme un tableau monochrome qui aurait des variantes de densité. Enfin bon, c'est très, vraiment très très joli en plus.
Très polyphonique.
Oui, complètement. Et puis alors, ce qui est quand même la chose suprêmement ironique, c'est que ça touche à l'infini. Il y a une infinie de positions des bouteilles de Coca-Cola, de remplissage, et elles sont cadrées de telle façon, ça on le sait bien, elles sont cadrées...
Que ça peut continuer.
Que ça continue, on sait que les bouteilles de Coca-Cola continuent hors cadre, donc c'est drôle. Enfin, je veux dire, c'est l'infini du Coca. Bon.
I've got a Brillo box, and I say it's odd. It's the same one you can buy at any supermarket. I've got the style it takes.
Il y a un stéréotype qui court sur Warhol et que personnellement je récuse.
Guy Scarpetta.
C'est celui selon lequel Warhol aurait été un artiste qui aurait soumis son art, premièrement à la sous-culture de masse, dont il aurait produit les icônes, deuxièmement à la logique du marché, dans laquelle il se serait moulé complètement, et troisièmement dans ce que Walter Benjamin appelait la disparition de l'aura de la peinture à l'époque de sa reproductibilité technique. Et on sait que Warhol a pratiqué, notamment grâce aux sérigraphies, des peintures, si l'on peut dire, en série, ou des images en série, à la fois parce qu'il reprenait lui-même les mêmes séries en les retravaillant différemment, mais aussi parce qu'il n'hésitait pas à adopter des méthodes de reproduction industrielle et à faire un art qui était fait pour être produit. Alors, il est évident que par rapport à notre situation, si l'on s'en tient à ça, on peut dire que Warhol est un peu emblématique de la décadence ou de la décrépitude de la peinture actuelle. Mais, à mon sens, s'en tenir à ça, c'est ne voir que l'aspect le plus superficiel des choses. À quoi on assiste aujourd'hui dans le domaine de la peinture ? À une mutation en profondeur qui fait que la peinture n'est plus seulement, comme elle l'a été pendant longtemps, une valeur marchande, mais qu'elle devient un objet de spéculation. Bon, c'est une mutation économique radicale. Hein, qui fait que aujourd'hui, on peut acheter de la peinture sans la voir. Elle n'est pas faite pour être vue, mais pour elle a le même type de fonctionnement et d'existence qu'une action en bourse. Ce type de spéculation, bon, qui affecte absolument tout le champ de l'art moderne, évidemment, entraîne des conséquences tragiques sur la peinture elle-même, qui n'est plus faite pour être vue, sur les galeries, qui ne sont guère plus que des façades destinées à couvrir de plus en plus des opérations spéculatives souterraines. Sur la critique d'art, dont le rôle est de plus en plus un rôle purement publicitaire, et sur l'art lui-même, qui, subjectivement, de la part de cette foule d'artistes qui existe du fait de ce marché, devient une opération, finalement, de réponse à la demande économique et spéculative elle-même. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de peintres, dont peut-être le plus prestigieux aujourd'hui est Jeff Koons, qui carrément font des études de marché, avant de savoir ce qu'il faut peindre, ce qu'ils doivent peindre et comment répondre à la demande. Alors, par rapport à cette situation qui signale probablement la fin d'un certain nombre de valeurs critiques qui étaient celles de la modernité depuis la fin du XIXe siècle, il me semble que Warhol ne peut pas être réduit au rôle de celui qui aurait précipité la débâcle. Je veux dire par là que Warhol, c'est un fait... utilise des images toutes faites, hein, des images ready-made, des images qui appartiennent pour l'essentiel à la culture de masse, hein, qu'il s'agisse d'objets de consommation, Coca-Cola, Brio, etc., ou d'images de stars du cinéma, stars mythologiques type Mao, stars historiques ou stars de la Jet Society et de la bourgeoisie qui collectionne. Bon, il utilise des images de stars, des images de la sous-culture de masse, mais avec un coefficient de traitement esthétique, d'une part, et un coefficient d'ironie aussi, qui me semble indiquer que, contrairement à la plupart des jeunes peintres actuels qui se soumettent et se subordonnent à cette sous-culture de masse, Warhol, lui, la traite. Hein, la traite, simplement.
Il la prend de front. En
fait. Voilà, sa montagne Sainte-Victoire s'appelle Marilyn Monroe, mais il n'en produit pas moins un geste proprement esthétique, aussi important que celui de Cézanne sur l'image de la montagne Sainte-Victoire. Bon. Deuxièmement, le rapport de Warhol au marché. Alors, on sait que Warhol est quelqu'un qui, du fait même de sa manière de traiter publicitairement son art, et en particulier de s'intégrer dans la reproduction industrielle et la production d'images en série, de ce fait même, bon, Warhol peut sembler avoir précipité cette décadence et cette fin de l'art avec son aura essentielle, telle que Walter Benjamin la définissait. Mais par un autre côté, ce qui est frappant, c'est que Warhol a inséré cela dans une sorte de jeu, de réponse à l'uniformité. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que Warhol pratique, par rapport à l'état actuel de la sous-culture, une sorte de réponse par la surenchère. C'est-à-dire que là où certains répondent par le retrait, l'abstention ou le recul critique, lui, il répond en exaspérant le système, en affolant le système de l'intérieur. Bon, par exemple, tout le monde médiatique et télévisuel dans lequel nous sommes plongés aplatit complètement les images qu'il nous présente. Et les déréalise complètement. Par exemple, bon, la télévision donne exactement le même régime signifiant à un document d'archive, à un reportage en direct, à un spectacle ou à une publicité, à une séquence d'actualité ou à une fiction. Warhol, d'une certaine façon, répond à cela par une surenchère. Hein. Le réel disparaît derrière ses représentations. Lui, il accentue le processus jusqu'à ôter au réel toute consistance autre que celle de ses codes gestuels et colorés.
Alors au fond, il ne transgresse pas les codes.
Hein. À mon avis, il les fait imploser de l'intérieur. Bon, on est bombardé d'images, Warhol répond en accentuant le processus, en renforçant le processus jusqu'à tout transformer en images, même les images déjà là.
C'est une voiture verte en flammes 9 fois. Bon, il y a cette idée de feu. Et qui est absolument contredite par le vert, c'est-à-dire que c'est un incendie absolument éteint. C'est un sujet absolument terrible. Il y a le passager de la voiture qui a été éjecté et qui est suspendu à un arbre. C'est-à-dire que l'effet de multiplication, là, est une image de la mort parfaite. Parce que ce qu'on voit, c'est que le cadrage est fait comme si c'était une pellicule qu'on déroulait. Sauf que là, c'est toujours la même image qu'on déroule. C'est une image... doublement immobile, enfin, ou plutôt 9 fois plus immobile qu'une image normale. Du fait de l'incendie, qui n'est pas dans toutes les autres images de désastre, il y a une gamme extraordinaire de clair-obscur. Il crée de la beauté d'indifférence. Ça, c'était la formule de Duchamp, enfin... c'est ce que cherchait Duchamp. Il cherchait la beauté de l'indifférence.
On voit que les stars du showbiz ou de la culture sont prises dans des effets publicitaires. Lui, il répond en les traitant exactement comme des bouteilles de Coca-Cola. On voit que l'art est perverti par la circulation de l'argent. Lui, il répond en faisant de l'art avec des images de dollars. On voit que nous sommes plus ou moins aliénés à un monde technique ou machinique. Lui, il répond par un surcroît de technique, par une surenchère de la technique. C'est-à-dire qu'il faut bien saisir, je crois, cette sorte d'insolence qu'a Warhol à répondre à ce qui peut aliéner l'art par une exaspération. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a deux positions possibles devant cette aliénation actuelle des valeurs artistiques qui était née avec la modernité, soit le retrait, le repli sur les valeurs antérieures, soit au contraire, rentrer dans le système et le pervertir de l'intérieur par la surenchère, par l'excès. Et ça nous paraît être la stratégie de Warhol. This is New York calling. We're movies from the street.
Ce qui est étonnant avec les Mao, c'est qu'il y a un retour à la peinture, au geste, à la gestualité, à l'aléatoire, au hasard, pas sous une forme expressionniste, c'est plutôt une espèce d'émulsion comme ça, c'est plutôt une mayonnaise qui l'agite. c'est du barbouillage un peu. Mais alors, ce qui est étonnant, justement, dans les. par exemple dans celui-là, qui est rose et vert, avec la gueule de Mao qui s'imprime comme ça.
Violet.
Rose, vert et violet, avec des couleurs assez crémeuses. Il y a des connotations de saveur qui reviennent quand même, malgré tout. C'est gentiment iconoclaste, en plus. Il y a quand même une vérité de Mao, c'est-à-dire qu'il est... Il survit très bien à toutes ces turbulences de pinceau.
Le côté vieux chinois.
Voilà, comme il a très bien survécu à toutes les révolutions, à toute la tourmente. Enfin, je veux dire, il y a une vérité.
Et un grand portrait du président Mao.
Un grand portrait, comme ça, au milieu de la fraise, de la pistache. comme ça, mais c'est un grand portrait. That person is screaming, that's the way he really feels. We're all improvising 5 movies in a week. If Hollywood doesn't call us, we'll be sick.
Puis enfin, il y a un dernier point par où je me démarque personnellement de ceux qui voudraient réduire Warhol à celui qui aurait finalement accepté la subordination de la peinture au jeu social. Ce qui est évident, c'est que c'en est fini avec Warhol d'un mythe romantique. Hein, le mythe de l'artiste incompris, isolé, du créateur maudit, pauvre, qui ne peut vivre qu'à l'écart du jeu social. D'une certaine façon, on peut dire que la mondanité de Warhol, qui n'est que le corollaire d'une vigilance extrême quant au destin social des images qu'il a proposées, que cette mondanité devient avec lui une des dimensions que son esthétique doit traiter. Alors, ça suppose évidemment toute une stratégie, à la fois artistique et sociale, intégrant le social dans l'artistique, qui est évidemment assez complexe. Alors, si on la décompose, on voit ceci. Dans un premier temps, la fin des années 60, le début des années 70, il s'agissait pour Warhol de susciter autour de lui une espèce de collectivité marginale, underground. Mais cette marginalité même, qu'on pourrait rattacher au mythe de la contre-culture, qui existait à cette époque-là, cette marginalité même était ambiguë. C'est-à-dire que, précisément, elle n'était pas complètement réductible à une pure et simple contre-culture. C'est-à-dire que, d'un côté, elle se définissait bien comme totalement subversive en regard des valeurs dominantes de l'époque. Hein, le monde social de Warhol, c'était celui de la perversion, de l'homosexualité, de la drogue, des travestis, etc. Mais, d'un autre côté, cette contre-culture n'hésitait pas à mimer ou à reproduire certains comportements de la société de consommation, et notamment le star system. L'essentiel, en somme, à cette époque, était moins de contester ou de subvertir la société établie que de laisser se développer une espèce de micro-société parallèle et décalée qui mimait, plus ou moins ironiquement, certains aspects de la société établie. Et puis, dans un deuxième temps, début des années 80, Warhol enregistre la mutation radicale que Pasolini, à sa manière, avait enregistrée aussi, introduite par la permissivité du monde moderne. C'est-à-dire que l'underground devient officiel, son mode de vie n'est plus réprimé, le monde des travestis, de l'homosexualité, de la drogue, etc., devient un monde toléré, et le monde de l'art lui-même sort du ghetto où il était et devient même quelque chose qui est à la mode. Alors, à partir de ce moment-là, la stratégie de Warhol, comme toujours, consiste non pas à se retirer dans une tour d'ivoire pour contester, depuis un point de vue pur et dur, le processus, mais à l'utiliser pour le retourner, à exaspérer le mouvement. C'est-à-dire que sa stratégie, à ce moment-là, devient délibérément publicitaire. Autrement dit, il s'agit de se forger une image de marque, au sens publicitaire du mot, à la fois sulfureuse, un peu diabolique, mais en même temps fascinante et désirable, telle que le star system un peu ironique et un peu parodique de la première période puisse fonctionner comme un pôle d'attraction, de telle façon que le fait d'avoir son portrait peint par Warhol devienne, de la part de la bourgeoisie cultivée, une marque totalement ironique de son point de vue, de distinction. Alors là, on arrive à une vraie question, c'est que, et qui concerne la dernière période de Warhol, qui a été contestée par beaucoup de gens qui l'ont soutenu au début. C'est que, du point de vue, je dirais progressiste, certains ont pu déplorer cette aisance de Warhol dans le jeu mondain. Hein, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire circuler l'image de Warhol comme celle d'un artiste qui céderait sur sa souveraineté, qui se serait compromis avec la mode, qui se serait subordonné au pouvoir de l'argent, comme à l'époque des peintres courtisans qui étaient soumis au monde aristocratique.
Ça, c'est pas faux, d'ailleurs, la comparaison avec le peintre courtisan.
Mais c'est encore une fois paradoxal. C'est comme toujours avec Warhol, ambigu, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que si on regarde d'à peu près, on se rend compte que la mondanité de Warhol dans cette dernière période, celle des grands portraits, n'a strictement rien de commun avec les liens qui, sous l'Ancien Régime, pouvaient unir les artistes aux princes ou aux cours aristocratiques. C'est-à-dire qu'il se passe ceci. Warhol étend peu à peu le champ de ses portraits à partir d'un centre qui n'est autre que le monde de l'art. Hein, c'est-à-dire qu'il commence par peindre des portraits d'artistes célèbres, Beuys, Hockney par exemple, puis de critiques et de responsables d'institutions culturelles, donc la première périphérie du monde de l'art, Gelzhaler, Castelli, les grands marchands de tableaux, puis de proche en proche, des portraits de personnages à la mode, les vedettes de magazines comme Harper's Bazaar ou comme Vogue, et puis enfin de riches collectionneurs qui lui commandaient les portraits, mais, et c'est là la singularité de sa stratégie, comme si c'était lui qui fondait sa hiérarchie. Hein, autrement dit, ça n'est plus l'aristocratie qui attire les artistes autour d'elle en les qualifiant de cette façon-là. C'est l'inverse, c'est le monde de l'art, Warhol lui-même, qui attire la bourgeoisie sur son propre terrain à lui et qui, du même coup, l'aristocratise par le portrait en lui donnant l'impression de l'intégrer par le portrait même à la véritable élite. Autrement dit, il y a là une stratégie d'exaspération et de retournement qui consiste à faire triompher la facticité de manière extrêmement ironique, puisque, à la limite, pour quelqu'un qui a de l'argent, pour quelqu'un qui veut faire partie de l'élite, il n'y a pas de désir plus grand que ce désir que Warhol a suscité, qui était celui d'avoir son portrait traité exactement comme une boîte de soupe.